on ne mourra pas d'en parler. Bonjour, je suis Agathe et je suis ravie de vous accueillir pour cette première émission de « On ne mourra pas d'en parler », une émission qui revisite nos vies avec la mort, diffuse des informations, suscite des questions et des explications. Pour la première de l'émission, j'ai pensé que ce serait une bonne chose de prendre le sujet à bras-le-corps et de nous interroger sur le deuil. J'ai l'impression que le deuil, c'est un processus qui peut être assez long, qui est singulier. Les gens en parlent de manière extrêmement variée. Certains disent qu'ils ont eu besoin de prendre des médicaments. Certains n'ont pas l'air de s'en être vraiment remis. D'autres ont l'air, au contraire, de s'en sortir très bien. Donc, je voudrais qu'on ait un éclairage peut-être un peu plus spécialisé, un petit peu plus documenté. Aussi, j'ai fait appel à Pierre Chambaud. Pierre, qui est médecin généraliste à la retraite, mais très actif, et qui est formé à l'accompagnement au deuil. Pierre, j'aimerais que, grâce à votre bonne expérience dans l'accompagnement des personnes, on puisse avoir une information un petit peu plus précise et surtout des repères sur qu'est-ce que c'est que de vivre un deuil et surtout comment aussi on peut soulager, aider, accompagner les personnes qui vivent cet événement.
Bonjour Agathe. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le deuil, justement? C'est une grande question, c'est une question qui nous préoccupe tous, parce que, qu'on le veuille ou non, un jour ou l'autre, on est concerné par le deuil. Alors, le deuil, c'est la meilleure définition que je puisse en donner, c'est une souffrance. C'est une grande souffrance, à la fois psychique et physique. Parce que le deuil, c'est la rupture d'un lien d'attachement. Un lien d'attachement, c'est ce lien qu'on a créé avec une personne, et qui est fait du quotidien, de tout ce qu'on a pu vivre avec cette personne. Et un jour, ce lien se rompt. Et c'est ce qu'on appelle la mort. Et ça peut générer effectivement des grandes souffrances psychiques, émotionnelles, et qui peuvent se répercuter au niveau du physique. Alors, le déroulé du deuil, classiquement, le deuil dit « normal », je mets des guillemets à « normal », se déroule sur... classiquement, quatre phases. C'est une première phase qui démarre dès qu'on apprend le décès de la personne à laquelle on était lié. Que le deuil soit prévu, préparé ou pas préparé, qu'il soit brutal ou pas, il y a à ce moment-là un choc, un véritable choc. Et j'ai le souvenir d'une personne qui m'avait dit que le jour, au moment où son conjoint était parti, alors qu'il décédait d'un cancer, elle m'a dit... J'ai eu l'impression de prendre un Kingston en pleine poitrine. Et à ce moment-là, il y a cet état de choc et de sidération qui correspond à ce qu'on appelle la première phase. C'est-à-dire que les gens sont soit anesthésiés, soit au contraire se perdent dans une espèce d'activité complètement stérile, qui n'est que la mise à distance de la montée d'émotions qui est là et qui peut être très intolérable. C'est une phase qui va durer, on va dire, de quelques heures à quelques semaines, pas au-delà d'un mois maximum. Et c'est ce qui permet d'ailleurs aux gens de faire face à ce qui se passe, c'est-à-dire d'être installé les funérailles. Tout ce qui doit dérouler de funérailles, du moment justement, qui est quand même très très difficile à ce moment-là. Et puis démarre très rapidement ce qu'on appelle la deuxième phase, et qui est une deuxième phase qui peut durer entre classiquement 6 mois, 10 mois, on va dire un an. C'est une phase qu'on appelle la phase de fuite et de recherche. Alors la fuite, c'est les gens se complaisent, j'allais dire, dans une suractivité physique, mais qui est complètement stérile. Et mais surtout, c'est la recherche de la personne disparue et qui permet de faire maintenir vivant ce lien avec la personne disparue.
Donc c'est par exemple, excusez-moi, faire des choses qu'on aimait faire ensemble et se mettre à les faire tout seul d'une manière un peu frénétique.
C'est exactement ça. Ça peut être aussi la recherche dans les photos, disposer des photos un peu partout. C'est se mettre à aimer ce que la personne disparue aimait, qu'on n'aimait pas forcément. J'ai toujours cette anecdote de ce monsieur qui a perdu son épouse, qui était passionné d'opéra. Lui avait horreur de l'opéra. Et après le décès de son épouse, il s'est passionné pour l'opéra. Alors qu'en fait, il ne pouvait pas l'encadrer. ça va être aussi maintenir ou garder les objets que la personne aimait. Ça peut être rechercher, refaire les promenades qu'on avait fait ensemble. Ça peut aller même jusqu'à visiter le cimetière tous les jours. Ça peut être toutes ces choses-là qui font qu'on espère, on essaye de maintenir le lien qui existait avec la personne disparue. Alors, souvent, l'entourage comprend très mal cette situation, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une situation qui peut durer plusieurs mois, jusqu'à un an. Et souvent, l'entourage comprend très très mal, parce qu'ils disent « Mais comment tu te complais dans cet aspect un petit peu morbide ? Enfin, secoue-toi, fais quelque chose, sors, vois du monde, va au cinéma, c'est pas possible. » Et dans cette situation-là, les gens ont la sensation que l'entourage ne les comprend pas, ne les entend pas. Une personne m'a dit « Moi, pendant toute cette période, j'avais l'impression d'être sous une cloche de verre. Je voyais les gens, je les entendais, mais ils ne me voyaient pas, ils ne m'entendaient pas. » C'est une situation qui est souvent très, très, très douloureuse, mais extérieurement, les gens ne le montrent pas.
Ils se coupent un peu de leurs proches, de leurs relations sociales habituelles, du coup ?
Oui. Tout à fait. Et en général, quand on leur demande comment ils vont, ils vous répondent « Oui, ça va bien. » C'est pas vrai, ça va pas. Ça va pas parce qu'ils ont la sensation qu'on ne les comprend pas. Ils n'auraient qu'une envie, c'est parler de la personne disparue. Ils ont ce besoin de parler pour la faire vivre. Parler de la personne disparue, c'est la maintenir en vie. Et les gens, l'entourage, la famille, les amis, quelque part, ça les saoule un petit peu, puis ça leur fait peur surtout. Ça leur fait très très peur.
Oui, ils peuvent avoir l'impression aussi qu'ils participent au maintien de la personne dans un état qui est peut-être ce qu'on pourrait considérer comme pathologique si on n'est pas tellement informé.
C'est tout à fait ça.
Parce que en contenu des délais que vous donnez, moi je trouve ça très long. J'ai l'impression que là on est dans quelque chose qui est anormal, alors que vous avez l'air de dire que ça c'est la normalité.
C'est la normalité. Un deuil, c'est quelque chose qui peut durer pendant très très longtemps. Là, je disais que la première phase peut durer, on va dire, quelques heures, quelques semaines, mais cette deuxième phase peut durer en gros un an, c'est-à-dire jusqu'à l'anniversaire du décès. Et c'est pour ça qu'autrefois, dans les traditions, on faisait ce qu'on appelait la messe de bout de l'an, c'est-à-dire qu'à l'anniversaire du décès de la personne, il y avait une cérémonie religieuse qui réunissait toute la famille. Et c'était une manière comme une autre de clore quelque chose.
De marquer le passage vers une amélioration ou une capacité à vivre seul.
Oui, parce que le deuil, en fait, c'est la capacité de passer du nous au je. Le nous, c'est le lien qui a été créé avec la personne disparue. Et le je, c'est prendre conscience qu'on est un être, un individu unique. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et très souvent, et c'est là où ça devient un petit peu plus ennuyeux, c'est que la troisième phase démarre au bout d'un an, en général, à l'anniversaire du décès de la personne partie. C'est ce qu'on appelle la phase de déstructuration, qui est une phase qui est très douloureuse et qui est surtout caractérisée par un vécu dépressif qui peut être très important. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'énergie psychique que la personne en deuil a utilisée pour maintenir en vie ce lien d'attachement qui a pourtant disparu. Intellectuellement, elle sait que la personne est partie, mais émotionnellement, le cœur ne le sait pas encore. Mais cette énergie psychique est complètement épuisée. Et c'est d'ailleurs le moment où les gens s'effondrent, psychiquement et physiquement. Et c'est ce qu'on appelle la phase de déstructuration, et qui va se manifester par un vécu dépressif, avec des tristesses, avec des pleurs, avec un retrait sociétal, avec des troubles du sommeil, avec des troubles de l'appétit, avec tout un cortège physique. Et d'ailleurs, les gens vont consulter le médecin. Le médecin dit « Mais vous n'avez rien, ma pauvre dame, mon pauvre monsieur. Vous avez un petit coup de déprime, on va vous donner des antidépresseurs. » Surtout pas. Sauf si, effectivement, il y a un état dépressif vrai, mais ça, c'est autre chose. Parce que les antidépresseurs bloque l'expression des émotions. Et donc, on peut avoir après affaire justement à des deuils qui sont prolongés ou des deuils différés ou des deuils inhibés. Et ça, c'est très ennuyeux quand même. Donc, cette phase-là aussi va se manifester en général par beaucoup de colère. Alors, des colères en général, soit contre l'univers, contre Dieu si on est croyant, contre le système médical qui n'a pas été foutu de maintenir la personne en vie, contre soi-même. Moi, je n'ai pas été capable et je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour le maintenir en vie, ce n'est pas possible. Et même contre la personne disparue qui nous a lâchement abandonnés. Donc il y a toutes ces colères qui sont là. Il y a aussi une culpabilité qui traîne dans le coin très très souvent. Je n'ai pas été bon, je n'ai pas été à la hauteur, j'ai loupé des tas de choses. Et ça, ça peut durer facilement entre 8 mois, 1 an, voire même plus, suivant les circonstances du décès là. La personne.
Mais Pierre, on en est à pratiquement 2 ans, là.
C'est pas fini.
Je vous écoute.
C'est vrai que, bon, cette phase-là, en fait, contrairement à ce que pensent les gens, c'est pas une dégringolade. C'est au contraire le signe que la cicatrisation de cette rupture du lien d'attachement est en train de se faire. C'est une crise, moi j'appelle ça une crise de résolution positive. Mais qui est très souvent mal compris et par la personne endeuillée et par l'entourage. Parce que les gens croyaient que c'était fait, que le deuil était derrière eux, que c'était fini. Mmh. Et non, et ça leur revient en pleine poitrine, en plein visage. C'est ce qui est le plus douloureux, mais c'est en fait une crise de résolution positive. Parce que dans le même temps, alors qu'ils prennent conscience de façon totalement formelle, ils prennent conscience que ce lien d'attachement s'est complètement délité. Mais dans le même temps, il y a un autre lien d'attachement qui se fait. C'est un lien d'attachement qui n'est plus externe, mais qui est interne. Et parce qu'on dit toujours que la mort n'existe pas dans le cœur. Or, un deuil accompli, c'est une cicatrice dans le cœur. Et une cicatrice dans un corps humain, c'est le tissu le plus costaud, le plus résistant qui soit. Et ça, c'est quelque chose de très important. La mort n'existe pas dans le cœur.
C'est une belle image, ça me fait penser aux méthodes artisanales japonaises pour réparer la porcelaine, où on fait une cicatrisation, enfin on ne fait pas une cicatrisation, je vous prends vos mots, on fait une réparation avec de l'or, de manière à la montrer et à la magnifier. Et je trouve que ça correspond assez bien à ce que vous êtes en train de nous raconter. Ah. Donc je vous remercie pour cette mise en perspective. Donc en fait, un deuil, ce n'est pas en 3-6 mois qu'on s'en sort, c'est ça que vous nous dites ?
Oui,
que ça dure longtemps et qu'en fait, c'est quelque chose de normal.
Tout à fait. C'est un processus physiologique normal. Et je n'ai encore pas parlé de la quatrième phase.
Ouh là là. Je vous laisse.
La quatrième phase démarre à ce moment-là, en fin de la troisième phase. Mais c'est une phase de reconstruction. Et c'est une phase de reconstruction qui voit les rapports se modifier sur 3 plans. Les rapports à la société. On retourne dans la société, on est capable de nouveau de prendre la vie à bras le corps, et on a un rapport aux autres qui est très pacifié. Puis c'est un nouveau rapport à la personne décédée, c'est-à-dire qu'on peut en parler sans souffrance. On peut tout à fait, 10 ans plus tard, on peut parler de la personne disparue, on peut l'évoquer, mais sans souffrance. C'est quelque chose qui est très apaisé. Et enfin, c'est surtout un autre rapport à soi-même. C'est-à-dire que c'est une épreuve qu'on a traversée, c'est une épreuve qui nous a grandi. On est différent. On est passé du nous au je, et on vient de découvrir qu'on est quelqu'un de particulier, un être unique. Et en général, les gens qui ont traversé cette épreuve sortent grandis.
Je vous remercie pour cette explication imagée, par étapes, qui nous permet de nous rendre compte de qu'est-ce que ça peut être ce phénomène dans notre vie et de mieux peut-être le prendre en considération. Je vous propose de faire une pause musicale pour nous remettre de ce périple et on se retrouve après un morceau de Fauve. À tout de suite.
Me laisse pas devenir un fusil sans cartouche, un cheval sans cavalier, un cavalier à pied. Me laisse pas devenir un sprinter sans ligne d'arrivée, un train sans passager, une dispute qui a mal tourné. Une dispute qui a mal tourné. Me laisse pas devenir un pestiféré, me laisse pas devenir un chanteur de mariage, un pilier de bar, une barrière de péage.
Je sais bien que t'es à terre, que les questions te brillent la tête, et que la douleur t'empêche de parler, de dormir et même de penser. comme si un train de marchandises s'était rentré dedans. Je sais bien que tu regrettes plein de choses, tous ces mots durs qu'on s'est échangés, avec nos yeux qui lançaient des poignards et nos langues qui faisaient comme des marteaux. Je sais bien que tu voudrais m'avoir en face de toi pour m'attraper et me secouer, me demander pourquoi j'ai fait ça. La vérité c'est que je sais pas, je réfléchis pas toujours, tu me connais. Je sais bien que tu comprends pas, mais peu importe le résultat, ça change rien à l'amour, je t'assure. Et un jour elles se refermeront dans tes blessures. Je te demande pardon, pardon, excuse-moi. Je voulais pas te faire de mal, je voulais pas. Je pensais pas que ça irait aussi loin cette histoire, j'ai pas fait gaffe. Ça m'arrive parfois, je te demande pardon, pardon, excuse-moi. Je voulais pas te faire de mal, je voulais pas. Mais même si c'est vrai qu'on peut plus se voir, je suis encore là, tu sais, et je veille sur toi. En colère, que t'aimerais bien que je revienne, rien que pour pouvoir me coller un bon coup de pied au cul ou une correction digne de ce nom. Je sais bien que tu t'en veux, métier pour rien, il faut que tu l'acceptes. C'est la photo coucou qui est dans ma tête, à tous mes tocs, mes tics et mes fixettes, au chien effrayé qui aboie tout le temps à l'intérieur de moi. Je sais bien que tu m'appelles et je réponds pas, mais dis-toi que j'ai juste pris la voiture et que je suis parti, que je conduis la vitre ouverte dans la nuit éclairée par la voie lactée. Je sais bien que tu comprends pas, mais peu importe le résultat, ça change rien à l'amour que j'ai pour toi, je t'assure. Et un jour elles se refermeront tes blessures. Je te demande pardon, pardon, excuse-moi. Je voulais pas te faire de mal, je voulais pas. Je pensais pas que ça irait aussi loin cette histoire, j'ai pas fait gaffe. Ça m'arrive parfois, je te demande pardon, pardon, excuse-moi. Je voulais pas te faire de mal, c'était pas contre toi. Mais même si c'est vrai qu'on peut plus se voir, je suis encore là, tu sais, et je veille sur toi. Je suis le souffle du vent, je suis la pluie sur tes fenêtres. Je suis les courants d'air qui font claquer les portes. Je suis les craquements du parquet que la nuit emporte. Je suis le chat qui passe en silence sous le faisceau d'un lampadaire. Je suis les premières neiges. Je suis la lune qui éclaire la mer. Je suis les odeurs de l'hiver. Je suis le fracas des vagues contre la jetée. Je suis le cri des goélands. Je suis les embruns sur les rochers. Je suis tes voiles qui frémissent. Je suis l'eau vive qui court contre la coque de ton canot qui glisse. Je suis les parfums de genêt et d'ajonc au printemps. Je suis les bancs de sable qui découvrent. Je suis l'orage, le soleil qui perce entre les nuages. Je suis les gouttes sur ton visage. Je suis la vie autour de toi.
Bon retour sur Radio BLV 93.6, c'est toujours l'émission On ne mourra pas d'en parler, et Pierre Chambaud vient de nous expliquer en détail le processus, le phénomène, on va dire, du deuil. Est-ce que Pierre, on pourrait faire une petite synthèse, parce que c'était quand même dense et inattendu ce que vous nous avez raconté.
Eh bien, le deuil, le déroulé du processus de deuil, qui est différent du travail de deuil. Le processus de deuil, comme j'ai dit, est un processus physiologique, biologique, normal, et qui a une certaine durée. Sur 4 phases, comme je l'ai dit, phase de choc, phase de fuite et de recherche, phase de déstructuration et phase de reconstruction. La phase de choc peut durer quelques semaines, la phase de fuite et de recherche va durer, on va dire, 1 an. Déconstruction va durer 18 mois. Et reconstruction, eh bien, ça peut durer plusieurs mois. En gros, un deuil, c'est, faut compter entre 2 ans et demi et 3 ans.
Mais alors, dans ce cas-là, ça veut dire si, par exemple, je ne peux plus travailler pour m'occuper de mes enfants, pour retomber amoureuse, pour continuer à avoir des activités qui me plaisent, enfin, pour me sentir quand même vivre.
Alors, contrairement à ce qu'on pense, la vie continue son cours. La vie, c'est quelque chose qui s'écoule de toute manière. Donc, on peut se faire aider, on doit se faire aider très souvent. Et il est très important que l'entourage comprenne. Comprenne que la personne en deuil, c'est une souffrance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, l'important est qu'il y ait une souffrance émotionnelle. Donc, il faut être à l'écoute. Donc, soit on écoute, on ne donne pas de conseils, surtout pas. On écoute, on reçoit ce que la personne exprime. Parce qu'une personne en deuil n'est pas un retrait de la vie. Donc la vie existe de toute façon. On peut effectivement, comme tu dis, tomber amoureux. On peut continuer à vivre. Et puis de toute façon, il y a le quotidien à assumer. Alors, il peut y avoir des grandes difficultés. Et à ce moment-là, on peut se faire aider. que ce soit par des psychothérapeutes ou par ce qu'on appelle les groupes de parole et d'entraide.
Comment ça se passe, ces groupes de parole ?
Les groupes de parole, ce sont des gens qui ont vécu des choses du même ordre, pas identiques. Il n'y a pas de deuil identique. Un deuil est fonction de la personnalité de la personne en deuil et de la qualité du lien d'attachement qui était créé avec la personne décédée. Donc les groupes de parole, ce sont des réunions de gens qui ont vécu des choses du même ordre et qui échangent. Et le seul fait de pouvoir parler permet d'émousser les émotions et permet de comprendre qu'on n'est pas anormal, puisque d'autres vivent la même chose que nous. Et c'est très très important, parce que les groupes de parole, ce sont des lieux où la parole est entendue, écoutée, sans jugement.
C'est très intéressant ce que tu dis, ça me fait faire un parallèle avec une action qu'on organise avec l'association Thanatosphère qui s'appelle les Cafés Mortels. Et jusqu'à maintenant, moi j'avais l'impression que la force du Café Mortel, c'était que les gens puissent venir déposer une parole. Et en fait, je suis en train de comprendre que l'important pour eux, c'est d'être entendus.
Tout à fait. C'est la chose la plus importante. C'est que les gens réalisent qu'ils sont écoutés et entendus.
Et qu'il n'y ait pas de conseils, qu'il n'y ait pas de commentaires de la parole qui est déposée.
Sans
jugement. C'est ça qui en fait sa force.
Sans jugement, sans commentaires, sans conseils.
Donc là, ce que vous venez nous exprimer, c'est un deuil qui serait finalement normal. Ça nous paraît très long parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir présenté de cette manière. Mais bon, souvent.
Tout à fait.
Et mais il y a quand même des moments où les deuils deviennent pathologiques ou difficiles ou je ne sais pas. J'ai entendu aussi le terme de chronique.
Alors, c'est tout à fait exact. Ce dont j'ai parlé là, c'est ce qu'on appelle le déroulé du deuil dit normal. Mais il y a des deuils qui peuvent être un peu difficiles, qui peuvent être considérés comme compliqués ou même carrément pathologiques. Alors, classiquement, c'est ça. Le deuil difficile, c'est un deuil qui, de toute façon, va se faire d'une manière ou d'une autre, mais vu les circonstances, ça peut durer peut-être un petit peu plus longtemps, une phase qui est un petit peu plus longue qu'une autre, mais au final, le deuil se fait, se réalise. Après, on a ce qu'on appelle les deuils compliqués. Alors, les deuils compliqués, on reconnaît qu'il y en a à peu près trois. Il y a le deuil dit différé, le deuil qu'on dit inhibé et le deuil chronique. Le deuil différé, ce sont souvent des gens qui restent bloqués sur la deuxième phase. Ils n'arrivent pas à admettre, à réaliser au niveau émotionnel que la personne est disparue. Donc ça peut durer là. Il n'y a pas de pathologie, mais ils sont bloqués là. Et puis on a ce qu'on appelle le deuil inhibé, c'est-à-dire que il y a un déni de réalité qui se fait parce que c'est trop douloureux. Donc on met à distance la réalité. Et en fait, le troisième, c'est le deuil chronique. Et le deuil chronique, c'est souvent, très 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 souvent, c'est parce qu'il y avait une relation un petit peu amour-haine avec la personne. Et on reste en deuil comme si c'était une auto-punition d'avoir un petit peu cette relation conflictuelle avec la personne décédée et qu'on idéalise. C'est très souvent ça. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les deuils pathologiques, mais là, ça relève de la psychiatrie. Ça peut être même très ennuyeux, ça peut être des décompensations psychotiques, ça peut être des névroses très importantes et ça peut être des vraies dépressions.
J'ai une autre question. Est-ce qu'on peut, par le biais d'un deuil, revivre d'autres deuils ?
Alors, très souvent, parce que notre vie est faite d'une succession de deuils. Et le deuil primordial, c'est au moment où on a été séparé de notre mère, quand on a coupé le cordon ombilical. Et certaines fois, d'ailleurs, on peut avoir un deuil qui va emporter tous les deuils précédents qui n'avaient pas été, comment on dit, faits, entre guillemets. Enfin, un deuil fait, c'est pas... Bon. Ça peut, en fait, résoudre tous les deuils précédents. C'est aussi très possible.
Oui, ce n'est pas l'histoire de « j'ai bien fait mon deuil », c'est qu'en fait, je poursuis ma vie, finalement.
Voilà, c'est exactement ça. Donc ça, c'est le déroulé du deuil. Voilà.
D'accord. Et donc, pour vous, ce n'est pas d'aller prendre des antidépresseurs, à ce que j'ai compris. Hein. C'est plutôt d'aller rencontrer ses pairs pour chercher de l'accompagnement, de la compréhension, du soutien, des expériences communes et puis des thérapeutes si on a besoin d'être entendu.
C'est exactement ça. Les antidépresseurs peuvent être nécessaires, hein, une phase. C'est que dans la troisième phase, on est sur le fil du rasoir, hein, entre un vécu dépressif simple et une vraie dépression. Donc là, c'est très, très ennuyeux, il faut faire très attention. D'où l'entourage est effectivement très important à ce moment-là. Les réseaux sociaux, le réseau social, pardon, personnel, le réseau de soutien est très, très important.
Alors, je suis toujours étonnée par la façon dont, dans le droit du travail, enfin dans la société, le temps qu'on accorde aux personnes qui viennent de perdre un être cher, c'est 3 jours. Il n'y a pas de jour pour les grands-parents. Et depuis peu, pour les gens qui ont perdu un enfant de moins de 25 ans, c'est 8 jours et ça peut être aménagé à 15 jours. Donc effectivement, quand on est dans le temps que vous exposez, c'est vraiment difficile. Et juste parce que je trouve ça intéressant, je mets ça en parallèle. Quand on se marie, on a droit à 6 jours de congé. Voilà. Et je pense qu'on est plus apte à se préparer à son mariage qu'à se préparer au moment où on va perdre un être cher. Voilà, je vous remercie beaucoup Pierre Chambaud pour ces informations. On mettra sur le site de l'émission vos coordonnées si des gens veulent s'interroger ou participer à un groupe deuil. Comme ça, ils pourront vous contacter directement. Moi, je vais en profiter ces dernières minutes de l'émission pour vous faire les petites actualités sur les thématiques liées à notre thématique de prédilection à On ne mourra pas d'en parler. Donc, il y a l'association Thanatosphère qui organise des ateliers à Valence. Donc, ça va commencer le 29 septembre, mais je pense que l'émission sera diffusée plus tard et c'est jusqu'au 10 novembre. Donc, il y a différentes thématiques. C'est réservé aux personnes de 60 ans et plus pour ces ateliers-là, pour ce cycle d'ateliers-là. Ça va des prestations funéraires à comment anticiper ses obsèques, à pouvoir créer des couronne de fleurs sèches pour aller fleurir la tombe d'un proche au moment de la Toussaint. Et puis aussi, de nouveau, pourquoi est-ce que c'est difficile de parler du deuil? J'ai vu aussi qu'il y avait un ciné-débat qui allait avoir lieu à Romans. Ça va être le 7 octobre à 20h au Ciné-Planète. C'est deux associations qui organisent ce ciné-débat. Donc, c'est sur la fin de vie. C'est le film « C'est de son vivant » d'Emmanuel Berco, que j'ai eu l'occasion de voir et que je trouve très intéressant. Il y a aussi un autre film qui va être le 3 octobre à Valence, à 20h. Donc là, de nouveau, c'est sur la fin de vie. C'est dans une thématique qui est plus basée sur la maladie d'Alzheimer. Mais c'est une personne âgée qui décède, qui est en train de vivre ses derniers moments accompagnée par sa fille, avec toutes les difficultés que ça peut générer. Et puis, il y a la Semaine Bleue qui commence début octobre, et donc il y a énormément d'événements autour de, c'est comment changer le regard sur nos aînés et avoir des informations aussi sur la thématique. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Pierre, merci beaucoup pour ces informations. Je suis contente d'apprendre et puis de transmettre que, en fait, un deuil, ça se fait pas en 5 minutes et que c'est normal d'être extrêmement malheureux et que ce soit une grosse épreuve. Et j'espère que ça va soulager de nombreuses personnes qui culpabilisent et qui s'en veulent de pas s'en sortir. Et il y a aussi des ateliers, on ne mourra pas d'en parler, sur un petit peu les mêmes thématiques que ce que j'ai évoqué pour Valence, qui vont se dérouler à la maison de quartier des Ors, à Romans-sur-Isère. Le premier atelier était ce matin, mais il y en a d'autres jusqu'au 15 décembre. Je vous laisse regarder sur leur site et leur page Facebook. Et par ailleurs, pour les activités de Thanatosphère, n'hésitez pas à regarder le site de l'association thanatosphère.fr. Il y a une page agenda sur laquelle vous pourrez retrouver tous nos événements et il y en a de plus en plus. Il y a aussi les cafés mortels. Et si vous voulez accueillir un café mortel, vous pouvez aussi nous contacter ou si vous voulez monter avec nous un atelier, on ne mourra pas d'en parler, ou faire venir dans votre structure. Merci beaucoup pour votre attention et au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Au revoir.
Tout se passe bien depuis votre mort ?
La mort est une fin normale en soi.